R
F I.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est un livre de salubrité publique. 25 chapitres écrits par des anthropologues, des philosophes, des économistes, des biologistes pour remonter aux origines de la catastrophe. Beaucoup de ismes, capitalisme, individualisme, colonialisme, un peu de yon, surpopulation, religion, séparation, organisation, mais au final un ensemble de causes expliquées de manière pédagogique pour nous inciter à réagir à, je cite, « faire le deuil de tout ce que nous sommes pour ne plus être un rouage qui permet à la méga-machine de se maintenir sur sa trajectoire mortelle ». Mais la conclusion est enthousiasmante, ici je vous assure, c'est enthousiasmant. Ayons confiance en notre capacité à nous métamorphoser, notre rapport au monde peut changer et notre façon de l'habiter aussi. Aux origines de la catastrophe, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Dirigé par Pablo Servigne et Raphaël Stevens, c'est publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Ils sont nos invités. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Pablo Servigne.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes ingénieur agronome et docteur en biologie. Raphaël Stevens, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en résilience des systèmes sociologiques. Alors, nous vous avons reçu tous les deux un peu d'histoire, hein, il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans, la première
une
fois
éternité.
Pour votre livre. Il s'en est passé des choses depuis. Hein. Votre livre s'appelait « Comment tout peut s'effondrer ». C'était publié au Seuil et c'est le livre qui a lancé finalement une aventure, puisque c'est avec ce livre que vous avez fait connaître le concept de collapsologie dont on parle énormément depuis, avec les anti et les pour, les fans et les complètement arc-boutés contre. Enfin, ça déchaîne un peu les passions. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous rappeler ce que c'est cette collapsologie?
Oui, à l'époque, avec Raphaël, on avait fait un tour d'horizon de toutes les disciplines scientifiques qui parlaient des dynamiques d'effondrement, que ce soit les écosystèmes, le climat, la biodiversité, la finance, la bourse, la politique, etc. Et on avait fait une synthèse, on se demandait comment appeler ça, et on avait nommé ça « collapsologie ». Et puis finalement, ça a pris, c'est-à-dire pendant 3 ans, il y a eu un bon accueil scientifique, assez correct. Ça mettait des mots sur une intuition qui était là. Et on a entendu tout et son contraire, et les gens se sont mis à juste lire le titre et pas le livre.
C'est tout le problème de cette époque de zapping, parce qu'en fait, votre livre s'appelait « Comment tout peut s'effondrer », mais l'idée, c'était pas de dire « c'est la fin du monde ».
Il y a eu beaucoup de malentendus, effectivement. La plupart des critiques, c'est soit des procès d'intention ou des malentendus, ou des choses qu'on n'a pas encore dites, parce que justement, avec ce livre « Aux origines de la catastrophe », on fait un pas de plus, en fait, à chaque livre qu'on sort, c'est une étape de plus dans la réflexion, comme une sorte de progression qui nous fera arriver à, j'espère, la question politique, comment on fait, comment on s'organise, qui n'est toujours pas répondue, et ça frustre beaucoup de gens. Mais effectivement, il y a plein d'auteurs qui commencent à s'y intéresser, à publier des livres, ça foisonne, et c'est vraiment ce qu'on cherchait, à stimuler tout un écosystème, tout un mouvement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un mouvement qui nous a largement échappé. Et c'est très bien comme ça, et c'est ce qu'on voulait aussi marquer avec ce livre aujourd'hui. 25 auteurs, 25 causes, montrer la diversité, le foisonnement, un raisonnement multicolore en kaléidoscope qui permettent de montrer la diversité et le foisonnement de la pensée.
Oui, parce que Raphaël Stevens, en fait, il ne faut pas, c'est en fait ce qu'on peut retirer de votre livre, le dernier, et puis même des livres précédents, c'est qu'on ne peut pas éluder la complexité, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression que les gens s'arrêtent au titre des livres, au titre des articles, retweet, Facebook, juste sur l'image, la photo, les 3 mots, alors que tout cela est extrêmement complexe à comprendre.
Oui, tout à fait. On a vraiment l'idée, c'est bon, l'avantage de ce livre, c'est que c'est chaque fois des chapitres qui peuvent se lire vraiment séparément, mais l'objectif, c'est justement essayer de relier tous ces thèmes ensemble, tisser une arborescence, avoir devant soi, en fait, comme un réseau, et que tout un chacun puisse tirer un fil et partager le fil qu'il a tiré avec ses proches, avec sa famille. L'idée, c'est vraiment de que partout, dans toutes les, dans tous les foyers, on puisse se décomplexer sur ces questions-là et pouvoir en parler ensemble de manière la plus fraternelle et bienveillante possible.
Alors, aux origines de la catastrophe, c'est quoi la catastrophe, Pablo Servigne? C'est la crise sanitaire que nous traversons?
C'est un peu tout, parce que évidemment, dans les titres, il y a toujours un côté caricatural. À chaque fois, ça nous amène des problèmes. La catastrophe, évidemment, c'est au pluriel, hein, c'est les, mais ça faisait moins bien en titre. Mais il y a effectivement cette idée que notre civilisation puisse s'arrêter, que la biosphère puisse devenir invivable, que l'espèce humaine puisse s'éteindre, que... pour l'instant, la catastrophe, c'est aussi l'effondrement de la démocratie, en tout cas les risques, les atteintes graves, les attaques à la démocratie avec ces lois de surveillance globale, d'autoritarisme, etc. Il y a cette idée en toile de fond que notre société, on pourrait dire moderne, techno-industrielle, est en train de tout ravager. Et de s'auto-détruire, c'est une société autophage. Ce capitalisme, alors là c'est un mot en isme pour le coup, mais voilà, c'est une étiquette, mais on reviendra sur la complexité, mais qui a besoin en fait, structurellement, de manger tout. Et là, il a mangé les tropiques avec le colonialisme, il est en train de se manger lui-même, on est en train de manger les services publics, de manger nos corps, de manger notre démocratie, de tout marchandiser, c'est devenu un monstre. Qui détruit notre maison, la biosphère, voilà, et qui nous enlève notre possibilité d'avoir un avenir.
Et alors, dans votre livre, vous proposez donc à de nombreux intellectuels de donner leur point de vue. Les causes sont multiples, on l'a dit, on va en aborder quelques-unes dans cette émission. Et nous sommes en ligne avec Mathieu Ozano. Bonjour Mathieu. Vous dirigez le Shift Project, qui est un groupe de réflexion sur la transition énergétique. Vous avez publié un livre passionnant que j'incite les auditeurs à lire, qui s'appelle « Or noir, la grande histoire du pétrole » aux éditions de La Découverte. Et vous signez un article dans le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens qui démontre que l'une des causes de la grande accélération et donc de la catastrophe, c'est la découverte et l'exploitation des énergies fossiles, que sont donc le charbon, le pétrole et le gaz. Expliquez-nous pourquoi.
C'est peut-être même la cause première, la condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire sans doute de cette grande accélération. Le XXe siècle, le ciel dont on sort, est le siècle d'une expansion incroyable de la puissance humaine. Quand on n'a pas complètement dormi en cours de physique-chimie au lycée, on doit se rappeler que quand on parle d'un essor de la puissance, on parle à la lettre d'un essor de l'énergie. Vous ne pouvez pas effectuer une puissance économique, politique, militaire si vous n'avez pas des ressources adéquates en énergie. Or, la source d'énergie la plus profuse, la meilleure marché qu'on ait su contrôler, ça s'appelle les énergies fossiles. Et à tout seigneur, tout honneur, la plus pratique d'entre elles, le pétrole.
Alors ça a donné aux humains une puissance incroyable et nous n'avons pas conscience en fait à quel point ce recours aux énergies fossiles a influencé la géopolitique mondiale.
Oui, c'est un peu l'éléphant qui est au milieu de la pièce et qu'on ne voit plus tellement il est omniprésent. Mais si on regarde les choses de manière un peu attentive, à travers ce prisme de l'accès à l'énergie pour effectuer une puissance politique, économique, militaire, on s'aperçoit que très souvent, au cours du XXe siècle, l'accès à des sources d'énergie fossile, et en particulier d'énergie, a été primordial. La roure, le charbon de la roure a été l'un des butins de guerre de la Première Guerre mondiale, tout comme le pétrole du nord de l'Irak. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le but des forces nazies lorsqu'elles envahissent l'URSS, c'est Bakou, c'est le pétrole de Bakou. Stalingrad, le but stratégique de Stalingrad, c'est de mettre la main sur ce pétrole de Bakou. Et pour les Japonais, c'est le but ultime, c'est le pétrole d'Indonésie. Si vous voulez, encore une fois, effectuer une puissance, il vous faut des ressources adéquates en énergie. Et moi, pour moi, il y a un avertissement très très fort sur ce 21e siècle qui est censé être celui de la sortie du pétrole. C'est le fait que, sans doute, ce siècle aura commencé par une guerre pour le pétrole. Je fais allusion à l'invasion de l'Irak en 2003, où si on enlève les prétextes qui ont été servis par l'administration Bush à l'époque, eh bien il reste ce souhait par les Américains de planter la bannière étoilée, une bonne fois pour toutes, dans le golfe arabo-persique qui recèle les plus vastes ressources pétrolières mondiales.
Et les conséquences de cette exploitation des énergies fossiles, d'ailleurs 80% de l'énergie mondiale provient toujours de ces énergies, eh bien les conséquences sur notre environnement sont gigantesques.
Oui, sont gigantesques, mais c'est un peu l'histoire du yin et du yang. Chaque fois que vous déployez une puissance profuse comme celle qu'on a pu déployer grâce au pétrole, eh bien vous avez du meilleur et vous avez du terrible. Vous avez des histoires de progrès. Je pense qu'il y a un lien consubstantiel entre l'abondance énergétique et le progrès qu'on peut constater quand même dans les relations humaines, ne serait-ce que peut-être la démocratie et quelque part, à mon sens, une fille de la situation d'abondance extraordinaire qu'on vit aujourd'hui, en tout cas en Occident. Et puis il y a des tragédies. Le climat est une tragédie. L'aveuglement face aux limites de ces ressources pétrolières est une tragédie. Et puis le maelstrom de chaos qui se déploie notamment autour du golfe arabo-persique depuis 1980, depuis la guerre Iran-Irak, est sans doute une longue et terrible tragédie dont on n'a pas fini de regarder les conséquences.
Alors est-ce que l'utilisation d'énergie renouvelable peut changer la donne et à quelle échéance ?
Je crois qu'il est très difficile de défendre l'hypothèse qu'on puisse maintenir le niveau d'usage, le niveau de consommation énergétique, c'est-à-dire quelque part le niveau de confort auquel on s'est très rapidement habitué en une génération, avec les alternatives aux énergies fossiles de manière générale. En gros, c'est très simple, on a pris ces énergies fossiles parce que c'est ce qu'on avait de plus commode sous la main. C'était le meilleur rapport qualité-prix, si on veut dire. Et en fait, toutes les alternatives, qu'il s'agisse des énergies renouvelables ou bien du nucléaire, elles ont tout en commun le fait d'être plus chères, c'est-à-dire en fait, au fond, plus compliquées. Donc imaginez perpétuer le système complexe, technique, qui nous permet de vivre aujourd'hui. Sans le pétrole, ça implique de réfléchir à une réorganisation profonde de ces systèmes techniques pour aller vers davantage de robustesse à la fois et de sobriété.
Merci beaucoup Mathieu Ozanon. On peut donc lire votre article sur ces énergies fossiles et l'impact de leur développement dans le livre « Aux origines de la catastrophe ». Merci d'avoir participé à cette émission. Pablo Servigne, comment est-ce que vous réagissez à ces propos ? On a l'impression quand on entend Mathieu Ozanon que finalement ces énergies fossiles, c'est un peu comme le sang de l'humanité aujourd'hui.
C'est une vraie drogue. Bonjour Mathieu, merci. Ce qui est remarquable dans le chapitre de Mathieu, c'est que aussi il finit par désigner la volonté de puissance aussi, ces énergies fossiles, cette drogue. En fait, on est vraiment en cours de sevrage, on doit se sevrer, c'est une vraie drogue, on est drogué, on ne peut plus s'en passer, et ça nous donne une puissance terrible, et ça nous rend fous. Les énergies fossiles, ça a été l'outil pour déployer cette volonté de puissance, mais si on remonte au fond, ça a peut-être 500 ans, ce côté volonté d'accumuler et puissance est très européano-centré. Et ça s'est couplé à une puissance militaire, la naissance de l'État fort, plus les marchands vénitiens à Gênes, etc., qui ont du coup dû phagocyter les Amériques, les tropiques, à les piller en fait, qui ont provoqué un impérialisme, un colonialisme et tous les catastrophes et un écocide aussi qui s'en suivent. Donc on a finalement dans le texte de Mathieu, certes sans énergie fossile on n'en serait pas dans cette catastrophe, mais au fond, à chaque cause en fait, du livre, à chaque chapitre, il y a une cause, une métacause et une cause précédente. Et c'est vraiment intéressant qu'il signale cette volonté de puissance.
Et vous, Raphaël Stevens, comment vous réagissez à ces propos ?
Ben oui, effectivement, le pétrole est vraiment le sang de notre économie. 95% de transports, donc ce qui achemine tous les biens de consommation et dont les biens évidemment fondamentaux nécessaires à notre vie sur Terre, sont aujourd'hui transportés grâce au pétrole. Donc sans pétrole, évidemment, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et surtout, aujourd'hui, le problème de ces énergies fossiles, c'est que nous relâchons, en brûlant ces énergies fossiles, des énormes quantités de gaz à effet de serre et qui provoque effectivement un réchauffement et un dérèglement climatique catastrophique pour un grand nombre de la population sur Terre, y compris évidemment dans nos régions. On voit de plus en plus notamment des événements climatiques extrêmes. Et donc voilà, je crois que effectivement l'utilisation des combustibles fossiles est vraiment une cause très très importante de cet ensemble de catastrophes qu'on voit aujourd'hui.
Alors d'autres causes participent à ce que vous appelez la grande accélération. Il y a notre volonté de puissance, vous en parliez, renforcée par le culte de l'individualisme. Là aussi un chapitre très intéressant. Tout ça ajouté à la surpopulation, c'est-à-dire qu'on est quand même plus de 7 milliards d'individualistes. Enfin, tout le monde n'a pas la même culture, mais ça a tendance à se répandre. Et les perspectives sont plutôt à la multiplication. Et là, il y a un chapitre qui pas mal d'humour d'ailleurs, mais qui nous explique que nous sommes un peu trop nombreux.
Heureusement qu'il y a un peu d'humour, hein. C'est un thème assez difficile à aborder.
Et un peu tabou.
Et un peu tabou, est-ce qu'il y a trop de riches, est-ce qu'il y a trop de pauvres, est-ce qu'on est trop nombreux? Alors c'est une question qui revient souvent, en tout cas dans les débats. On a fait pas mal de conférences avec Raphaël, avec Gauthier, Chapelle. On expose beaucoup de choses et puis il y a toujours quelqu'un qui arrive à la fin du débat et se lève et dit « mais finalement tout ça... c'est un peu du blabla, le grand problème majeur, principal, c'est la surpopulation. Blam ! Et un argument massue. Bon voilà, c'est un peu simple de dire ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas découpler le problème de la surpopulation à la richesse, c'est la consommation. Un riche qui fait un enfant, il met au monde une machine à consommer beaucoup plus puissante et polluante que
un pauvre. L'impact d'un Américain n'est pas le même que celui d'un Nigérien.
En fait, c'est pas qu'il y a trop de monde, c'est qu'il y a trop de riches. Et puis c'est les inégalités, parce que plus il y a d'inégalités, plus les pauvres veulent ressembler aux riches, enfin beaucoup de pauvres. Et donc on crée une consommation pour combler ce vide et pour le désir d'imiter la classe sociale supérieure. Donc ça crée. Enfin, on a un chapitre aussi sur les inégalités. Et finalement, un des moteurs structurels de toute cette consommation, c'est le grand problème de notre époque, les inégalités extrêmement énormes. Et pourquoi il y a des inégalités? Parce que volonté de puissance, capitalisme, domination, etc. Et finalement, on a dans ce que vous disiez l'individualisme, la clé de la philosophie libérale qui est là depuis 400 ans, qui a fait la modernité, ça vient d'où ça, cette illusion qu'on est tout seul? On est tout seul, on peut s'en sortir. Et ça vient d'où? C'est d'une séparation ontologique, philosophique avec la nature. La nature, c'est un ennemi, c'est les virus, il faut les combattre, c'est sale, c'est en dehors de nous. Et nous, on vit dans une sphère technicienne confortable et on est séparé de la nature, on peut vivre sans. Faux, c'est faux, c'est faux. Et c'est ça, on peut classer toutes ces causes en, pour moi, deux grandes catégories. On peut s'amuser chacun et j'invite chacun à le faire d'ailleurs. Mais moi, les deux grandes catégories que je trouve fondamentales, c'est cette volonté de puissance. Et là, on retombe sur beaucoup de causes en isme, des dominations, etc. Et la séparation nature-culture. Mais alors, quand on dit ça, quand on a trouvé ces causes, qu'est-ce qu'on fait? Ça pose des questions absolument abyssales. Comme le disait Mathieu aussi tout à l'heure avec les énergies fossiles, une fois qu'on a détecté une cause, imaginons les énergies fossiles, ça fait partie des causes majeures. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse les énergies fossiles dans les sous-sols? Comment on fait pour la séparation nature-culture? Ça veut dire quoi, se rabibocher, se reconnecter à la nature? Voilà des questions abyssales qui ouvrent le champ des possibles. Et c'était vraiment le but du livre, c'est permettre aux gens de déployer leur imaginaire pour pouvoir ouvrir des pistes de solutions.
Alors ces profondes inégalités qui ont été créées finalement en un peu moins de deux siècles, on en parle juste après le Marocain Fadoul, la légende du funk arabe Sid Reddad. مشتاق الكاف علمي خياب كلامي خسر وعياب راسي مهموم عيني يخدعهم النوم وامول الباس راني مشتاق الكاف دنيا حنينة العيشة فيها بنينة أهمن تبسيمة بنادم يرجع رهينة وامول الباس راني مشتاق الكاف أسيد سباب مشتاق الكاف عباس جداب الدار جداب محايد جداب عيوش جداب الحسين جداب وانا جداب الدار جداب ايه 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 Fadoul, la légende du funk arabe, Sid Redad dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
On voit bien que nos progrès techniques ont amené un problème grave, dont vont particulièrement souffrir sûrement les pays du Sud, mais les pays du Nord aussi. Mais tous les pays actuellement ont des difficultés énormes à mettre en œuvre les techniques qui permettraient d'éviter les catastrophes. Et c'est une des grosses difficultés de notre espèce, c'est que justement, du fait de ce progrès, elle se croit tout permis, elle croit que tout est possible. Or, je pense qu'il faudra bien qu'on apprenne à se fixer des limites.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous sommes avec Pablo Servigne et Raphaël Stevens aujourd'hui qui viennent de publier un ouvrage collectif aux origines de la catastrophe. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Comprendre pour agir, s'émanciper de la pensée dominante, c'est l'objectif de ce livre. Alors selon de nombreux penseurs sud-américains, américains, africains et antillais, je pense notamment à l'ingénieur philosophe Malcolm Ferdinand qui signe d'ailleurs un chapitre dans ce livre sur le colonialisme, eh bien la dégradation de notre environnement serait aussi liée à l'histoire de l'esclavage et à l'histoire coloniale. Je vous propose d'écouter les explications de la philosophe Sandrine Kodjo-Grandvaux.
Les géologues disent qu'on est rentré dans une nouvelle ère géologique qui est l'anthropocène, qui est le changement de l'ère géologique du fait de l'activité humaine. Il y a des chercheurs qui disent que cet anthropocène-là, en fait, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas n'importe quel homme qui est responsable de ça, mais c'est une certaine activité humaine qui est celle liée au système économique capitaliste. Donc certains préfèrent parler de capitalocène. Et d'autres chercheurs comme Malcolm Ferdinand ou Donna Haraway parlent de plantationocène, donc qui vient de plantation. Mais en fait, c'est l'idée de montrer que certes, le capitalisme, la production capitaliste est responsable d'une écologie totalement dégradée, mais que le capitalisme s'est construit sur la traite négrière. Et que sans la traite négrière, il n'y aurait pas eu le système économique capitaliste tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc d'abord, la traite négrière est responsable de ce point de vue-là, puisqu'elle est à l'origine du système capitaliste. Et l'autre aspect, c'est que cette traite s'impose par une des premières expériences de monoculture intensive, qui est la plantation, qui se fait par des déforestations massives, ce que Malcolm Ferdinand montre très bien dans son ouvrage. Par exemple, en Haïti, on va déforester près de 80% de l'île. Et aujourd'hui, on sait que des glissements de terrain qui ont lieu lorsqu'il y a de fortes pluies sont dus au déboisement qui a eu lieu à la déforestation pour mettre les plantations. Donc ce modèle d'une agriculture intensive, elle prend aussi son origine dans le modèle de la plantation. Ce que ces chercheurs, ces intellectuels remarquent, c'est que la colonisation a imposé une manière d'habiter le monde et qu'elle a imposé ses normes et ses valeurs. Et pour imposer ses normes et ses valeurs, elle a détruit les normes et les valeurs des autres. D'abord, la colonisation, on l'a dit, a détruit des écosystèmes. Et ces crimes d'écocide se sont accompagnés de la disparition des autres manières d'habiter le monde et des autres savoirs et des savoir-faire. C'est-à-dire que les populations qui habitaient au Sénégal, au Cameroun ou en Centrafrique savaient comment habiter, savaient comment vivre en fonction de ce que la nature, la géologie proposait. Et tout ça a été dévalorisé, méprisé par le colonialisme. Et ce qui est terrible, c'est que ces valeurs ont été intégrées par les populations africaines qui elles-mêmes ont dévalorisé ces savoir-faire et les ont abandonnées. Je crois que au fond de ça, il y a l'idée de dire aux populations africaines qu'elles ont les clés elles-mêmes de leur développement et que en fait la solution elle n'est pas à chercher ailleurs, qu'ils savent, elles savent très bien ce dont elles ont besoin.
Alors, pas question ici de donner des leçons, évidemment, aux populations africaines, comme le dit Sandrine Kodjo-Grandvaux, qui, en fait, est une chercheuse qui est porte-parole de la philosophie africaine, hein, qu'elle a cherché à réhabiliter, notamment face à la philosophie occidentale qui, elle, a pignon sur rue, j'ai envie de dire, Pablo Servigne. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos et à ce rapport, justement, au fait que le colonialisme a finalement imposé une façon d'habiter le monde et de penser le rapport à la nature, une façon très destructrice.
Oui, je suis très touché par ce thème, puisque moi, étant aussi à moitié colombien, je vois entre deux cultures, je vois aussi à quel point là-bas, en Amérique latine, les ravages du colonialisme et maintenant aujourd'hui de l'extractivisme, on parle de cette folie de tout manger, ravager les ressources, le pétrole, les forêts, tous les peuples.
Mais c'est la suite.
Et c'est la suite. Oui, c'est la suite logique de cette volonté d'accumulation de puissance, de cette organisation militaire finalement, et de cette coupure avec la nature et de cette incroyable capacité à déshumaniser. À retirer du champ de l'empathie des catégories entières d'êtres vivants, que ce soit les pauvres, les femmes, les autres cultures, les animaux, tout. En fait, on déshumanise, on se retrouve tout seul, et du coup, comme ça devient non pas des sujets, mais des objets, on peut en faire tout ce qu'on veut, les vendre, les massacrer, les exploiter. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le colonialisme. Alors, ce qui me touche aussi, c'est que à l'époque, c'était pour la production de coton, de canne à sucre. Enfin, ça l'est encore un peu aussi aujourd'hui, mais c'était l'exploitation. Et aujourd'hui, il y a une double injustice, c'est que ce sont justement ces peuples qui souffrent des conséquences du réchauffement climatique, qui sont doublement oubliés, c'est une double peine. Et là, il y a une profonde injustice, d'autant plus que, ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on a besoin de leur savoir. Aujourd'hui, c'est pas... je pense que le développement se fait à l'envers. Moi, je suis ingénieur agronome, justement tropical. À l'école, on m'a appris que j'allais nourrir la planète. En fait, j'ai vite vu que c'était des foutaises et que c'était l'agroécologie avec 15 ans d'avance là-bas dans les pays du Sud et qu'il fallait développer l'Europe. Mais justement, on a besoin de ces savoirs, comme disait
Sandrine Cotto-Gribou.
Sandrine, la chercheuse, qu'on a besoin d'autres manières d'être au monde, d'autres manières que cette pensée occidentale dominante, hégémonique. Et aussi, on a besoin de ces savoirs de eux, comment ils ont traversé les catastrophes. C'est quoi être résilient? Mais il y a plein de peuples, des millions de personnes qui vivent sans argent, qui vivent dans les catastrophes et qui vont nous apprendre à traverser ce siècle de tempête, à vivre dans les ruines du capitalisme.
Le problème, Raphaël Stevens, c'est qu'il faut pouvoir les entendre, ces gens-là. Et Malcolm Ferdinand pose une question très intéressante dans l'article qu'il publie dans votre livre. Il dit finalement, quelle voix écoute-t-on? On écoute la voix de Greta Thunberg, qui a capté une partie de l'attention mondiale, alors que celle des militants des pays du Sud, et notamment des peuples qui dénoncent pourtant les mêmes choses qu'elle, on peut ou pas d'écho?
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il dit, c'est que la difficulté, évidemment, c'est que nous, certains Occidentaux, on a des discours sur le sort de la Terre, sur la catastrophe, au nom du monde entier, sans vraiment dialoguer avec, explicitement, donc sans la partie du monde qui n'a pas forcément accès à toutes ces informations. Donc, ce que lui dit vraiment, c'est qu'il est temps maintenant de mettre en place une plateforme qui nous sert vraiment de dialogue avec ces peuples qui sont opprimés et oppressés par notre, en fait, le colonialisme qui perdure toujours, hein, même si il y a effectivement d'un point ils ont obtenu leur indépendance, mais en fait il y a tout encore un discours très colonial dans notre monde occidental, et il est temps vraiment d'en sortir et d'aller à la rencontre de ces peuples, et comme disait Pablo, d'apprendre de leurs pratiques. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont vraiment beaucoup à nous apprendre et on ferait bien les écouter. D'ailleurs, les scientifiques ne se trompent pas, comme par exemple dans le rapport du GIEC, on peut lire énormément de choses maintenant, de ce qu'ils appellent les savoirs écologiques traditionnels. Et donc, ces scientifiques font beaucoup appel maintenant, de plus en plus en tout cas, à ces savoirs qui sont tout à fait pertinents pour résoudre les problèmes auxquels on doit faire face.
Oui, Pablo Servigne, c'est important de savoir qui parle de la catastrophe, parce qu'en fonction de d'où l'on parle, ce n'est pas du tout le même diagnostic.
Oui, toujours. C'est ça le problème avec les mots valise ou la catastrophe, l'effondrement au singulier, qu'à chaque fois, il faut prendre le temps, et ce n'est pas toujours facile dans les médias ou dans les discussions entre amis, de préciser. Quelle catastrophe? Qui parle? D'où on parle? À qui on s'adresse? C'est comme le mot résilience.
Pourquoi on entend beaucoup plus une Greta Thunberg qu'une jeune fille, par exemple, on se souvient, qui avait été évincée sur une photo. D'ailleurs, ça avait fait un scandale. Ah oui. Une Ougandaise, au moment d'une conférence internationale. On avait pris Greta Thunberg, trois jeunes filles blanches, et l'Ougandaise qui était à gauche, tout à gauche, au montage. pour l'article, elle avait été évincée.
Et ouais, c'est incroyable. Bah, les restes des réflexes, justement, coloniaux. Ceci dit, dans les jeunes, dans la jeune génération climat, bon, il y a cet archétype voilà, qui est devenu une sorte de mythologie de Greta Thunberg, mais il y a de plus en plus de voix dans chaque pays, soit en Belgique, en Argentine, enfin dans les pays du
oui,
Sud
même
aussi.
Au Sénégal, au Cameroun, au Bénin.
Il y a des jeunes, des porte-paroles, des jeunes pour le climat qui se battent et qui ont des voix magnifiques et qu'on entend. Moi, j'entends de plus en plus, après j'ai peut-être un biais de...
Mais nous aussi, non, c'est pas du vent, mais je crois qu'on est un petit peu biaisé.
C'est en train de changer, il y a vraiment un virage, que ce soit Black Lives Matter, que ce soit MeToo, un virage avec... notre société est structurellement en train de changer et il y a des fissures de cette hégémonie du mâle blanc, occidental, européen, dominant, qui est en train de craquer. Évidemment, le monstre va pas se laisser faire. Je pense qu'il y a, j'espère, les derniers sursauts de la bête.
Vous disiez le mâle. C'est vrai qu'il y a aussi un chapitre, d'ailleurs, dans votre livre sur le patriarcat. C'est vrai qu'on a longtemps tué la voix des femmes.
C'est un très, très chouette chapitre de Charlotte Leux qui montre comment la domination des femmes est vraiment liée à la domination de la nature, à la domination des savoirs ancestraux, enfin, même l'annihilation, l'oubli pendant la Renaissance. Le pouvoir a été pris par la raison, la science, etc. Et on oubliait tout ce qui est mystique, sorcière, sacré et la désacralisation du monde. C'est accompagné de cette séparation nature-culture. Et on a tout transformé en objets, en ressources, en marchandises. Et la domination faite aux femmes, aux féminins aussi en général, c'est pas que aux femmes, c'est vraiment cette maladie qui nous fait avoir des rapports de domination avec la moitié du monde, mais aussi avec tous les êtres vivants. C'est quand même assez incroyable. Donc relier ça au capitalisme, c'est vraiment un article clé, enfin un chapitre clé qui relie un peu tous les ismes et tout ça.
C'est notre rapport au monde qui doit évoluer. Pour vous y aider, nous vous proposons un moment d'écoute partagée du Requiem pour les temps futurs, composé par Pierre-Éric Souter, psychothérapeute et auteur du livre « N'ayez pas peur du collapse, Lacrimosa pillé Jésus ». Lacrimosa, pillé Jésus, extrait du Requiem pour les temps futurs, composé par Pierre-Éric Souter dans C'est pas du vent sur RFI. Une programmation un peu inhabituelle. François Porcheron, le réalisateur de l'émission, a accepté de passer ce morceau. C'est notamment pour vous faire plaisir, Pablo Servigne. Expliquez-nous qui est ce compositeur.
Ouais, c'est une œuvre remarquable en fait. C'est Pierre-Éric Souter qui est psychologue. En fait, il voyait dans son cabinet arriver des gens un peu dévasté par l'idée de collapsologie, d'effondrement, de solastalgie, etc. Et donc il s'est vraiment passionné par ça, par cette idée de la mort, et en fait que la proximité de la mort ou de la finitude puisse aussi nous réveiller, nous faire un sursaut de vital. Et il y a quelque chose dans la proximité de la mort que notre société traite très mal, qui est revivifiant. Et en fait, il a décidé de faire avec un grand compositeur un requiem. C'est quelque chose qu'on avait oublié, une messe en latin. Alors là, c'est vraiment des paroles en latin. C'est très codifié. Et et ce qui est remarquable, c'est qu'il l'a fait non seulement avec une qualité musicale vraiment extraordinaire, mais aussi avec une intelligence artificielle. Ça a été fait, enfin, la musique a été en partie composée avec une intelligence artificielle. Alors je lui ai demandé, mais qui est mort? Pourquoi un requiem? Il m'a dit, mais ce qui est mort, c'est une certaine idée du futur et surtout notre lien à la nature est mort. Et il y a quelque chose de l'ordre du sacré à aller rechercher dans cette musique. On parlait de désacralisation du monde. Il y a quelque chose d'une reconnexion à quelque chose qui nous dépasse et un lien avec la nature, à la mort, à ce qui fait la vie, les cycles de la vie. C'est très, très beau.
Un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
On disait, à mon époque, tout est politique parce qu'il y avait les grandes idéologies. Et maintenant, on vous dit, tout est économique.
Eh oui.
Et pourquoi pas? Tout est tout ce qu'on veut. Bernanos disait, tout est grâce. Faisons quelque chose pour rendre possible, tolérable, ce furtif passage sur la Terre. Là, le monde s'est mis en route. Ça veut dire quelque chose. Il ne s'arrêtera plus, vous savez. Ce n'est pas une crise conjoncturelle. C'est une crise structurelle. Le monde change. Si on ne fait pas attention, si on n'est pas acteur dans cette affaire, on sera dépassé. Et là, ça sera la violence. Chaque fois qu'on n'arrive pas à résoudre quelque chose, eh bien, ça se traduit par souffrance et violence.
Xavier Emmanueli, cofondateur de Médecins sans frontières et fondateur du SAMU social chez nos collègues de France Inter. Nous recevons aujourd'hui dans C'est pas du vent l'agronome Pablo Servigne et Raphaël Stevens, experts en résilience des systèmes socio-écologiques, qui viennent de publier « Aux origines de la catastrophe, pourquoi en sommes-nous arrivés là ?» aux éditions Les liens qui libèrent. Alors ce livre est composé de chapitres, on l'a dit, rédigés par de nombreux intellectuels que vous avez coordonnés. Et il y a une grande place qui est donnée dans ce livre à notre rapport au monde. Et c'est vrai que nos représentations influencent nos actions. Par exemple, la croissance économique derrière laquelle l'ensemble de l'humanité court montre aujourd'hui ses limites. C'est ce que démontre l'économiste Éloi Laurent avec l'exemple de la Chine.
Je crois qu'il y a deux façons de regarder l'expérience chinoise hein, depuis une quarantaine d'années. Hein, vous la regardez avec des regards d'économistes du XXe siècle, vous dites que c'est la plus formidable expérience de croissance économique de l'histoire de l'humanité. Hein. De 1978 à 2018, vous avez une économie qui croît de 10% par an. Vous avez un PIB qui est multiplié par 80. Il n'y a aucune expérience comparable dans l'histoire de l'humanité. Et puis, vous regardez ça avec des yeux d'économistes de l'environnement et vous dites, au bout du chemin, il y a la pandémie de Covid-19. C'est-à-dire qu'après, comme pour couronner ce cycle de croissance économique complètement folle, cette hypercroissance, ce que vous avez, c'est que vous avez, dans la ville de Wuhan, 11 millions d'habitants, au cœur d'une zone qui est au carrefour de la mondialisation chinoise, La folie de ce système fondé sur la croissance économique qui se nourrit de la destruction des écosystèmes et de la biodiversité et qui finit par anéantir le bien-être humain. C'est-à-dire la conséquence de ça, c'est que la Chine a exporté une épidémie qu'elle n'a d'abord pas révélée et ensuite pas su contrôler, et elle a exporté en quelque sorte, ou elle a réexporté vers l'Occident, les conséquences de son hypercroissance. La croissance économique, ça a été inventé en Occident. La Chine l'a porté à un point d'incandescence absolument incroyable. Et au bout du bout, ce que vous avez, c'est l'autodestruction du bien-être humain. C'est-à-dire que vous avez, le 7 avril 2020, 4 milliards d'humains qui sont enfermés contre leur gré et pour leur bien. 4 milliards d'humains. Vous avez 100 gouvernements de la planète qui décident d'enfermer 4 milliards d'humains, c'est-à-dire de détruire ce que les humains ont de plus précieux, qui n'est pas la croissance économique, mais la coopération sociale, c'est-à-dire le contact, la communication, la capacité d'échanger. Et c'est de ça dont nous sommes privés du fait de ce système économique qui est devenu insoutenable. Voilà ce à quoi conduit la destruction de l'habitat, ça conduit à la destruction de l'humanité.
L'économiste Éloi Laurent, votre réaction, Pablo Servais.
Très bon, Éloi Laurent, c'est remarquable, oui. Mais moi, je pense effectivement à un chapitre de Geneviève Azam. C'est marrant, depuis le début, on parle beaucoup des chapitres écrits par des femmes. Et malheureusement, on n'en a pas eu assez. On a essayé d'avoir une parité, on n'a pas réussi. Et Geneviève Azam parle de l'économisme. Cette maladie qui nous fait voir tout sous l'angle économique.
Ce que disait Xavier.
C'est ce que disait Xavier, ouais, qui était très juste. Et cette folie de la croissance, cette folie d'avoir un indicateur, le PIB, complètement ridicule pour mesurer l'état du monde. Cette folie aussi qui nous fait avoir des besoins illimités dans un monde fini et qui crée une économie de la rareté alors qu'il y a de l'abondance. La nature, c'est vraiment de l'abondance. L'économisme, c'est encore cette coupure nature-culture et en plus avec des modèles théoriques de l'homo economicus qui sont faux. L'homme n'est pas rationnel, l'humain en plus, n'est pas rationnel et égoïste. Il est irrationnel aussi et très social, comme le dit justement Éloi Laurent. Donc on est vraiment, on marche la tête à l'envers et cette religion de l'économisme, cette manière de voir le monde de manière unidimensionnelle, réduit notre champ de vision et nous empêche d'ouvrir des nouveaux horizons.
Raphaël Stevens, comment est-ce que vous réagissez à ces propos d'Éloi Laurent ?
Oui, ben c'est pour moi aussi la question vraiment de ce besoin apparent de maîtrise, de contrôle permanent sur les affaires du monde qui nous enferme dans les perspectives qu'on pourrait trouver. Je pense que vouloir tout contrôler, maîtriser est une erreur parce que la créativité, l'innovation viennent de cette capacité justement à rencontrer les autres, à trouver cette liberté. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a voulu ouvrir ce livre avec un texte d'Alain Damasio, donc un artiste, pour montrer que effectivement les artistes ont un grand rôle à jouer dans tout ça, de montrer que ils peuvent nous aider aussi à ouvrir ces horizons et sortir de ces chiffres, de ces rapports, de ces statistiques qui nous dirigent et qui nous empêche finalement de trouver les alternatives.
Vous concluez le livre par un appel à l'action individuelle et collective. Vous parliez des artistes, mais en fait, on est tous concernés. Hein. Et l'idée, ce n'est pas juste de s'arrêter sur un constat, sur les causes, etc. C'est de dire, à partir de là, il faut, je cite, « sélectionner les grains de sable que nous pouvons immiscer dans ces engrenages fatals ». Alors, nous sommes tous des grains de sable, Pablo Servigne, finalement.
Je sais pas, j'espère en fait.
Bon, on a le potentiel en tout cas.
On a le potentiel de, ouais, à la fois ne pas participer. Ça, c'est vraiment la base.
Ça passe par quoi ? Par les choix de consommation,
il y a des
choix d'alimentation.
Mais évidemment, les choix de consommation, c'est très limité. C'est important, c'est nécessaire, mais pas suffisant. C'est déjà un premier pas. Ça permet d'engranger une sorte de mouvement qui doit déboucher forcément sur l'action collective. En fait, on ne peut pas séparer l'individuel et le collectif. On doit forcément aller vers des questions politiques, des rapports de force, etc. Mais d'abord, ne pas participer à les méga-machines. Ensuite, résister, créer de la résilience, créer des alternatives. Tout ça, selon les sensibilités, on voit où on se place le mieux chacun dans des luttes ou des créations d'alternatives. Mais tout ce que montre le livre aussi, c'est qu'une fois qu'on a un paysage des causes, on peut ouvrir des chemins d'action. Et ces chemins d'action sont aussi toujours en lien avec un chemin intérieur. C'est ce qu'on disait dans Une autre fin du monde est possible, le livre en 2018. C'est que l'action politique doit aussi se nourrir de remise en question notre rapport au monde. C'est quoi notre rapport avec les animaux, avec le futur, avec la mort ? C'est des questions spirituelles, sans vouloir sortir un gros mot. C'est connais-toi toi-même, qui tu veux être dans la vie, etc. Et donc c'est une question aussi de, comment dire, réconcilier les méditants et les militants. Il y a beaucoup de clivages dans notre société, soit t'es scientifique, soit t'es spirituel, soit t'es militant, soit t'es avec, t'es contre nous en ce moment. C'est tout ce clive de partout, c'est vraiment dur. besoin de rassembler, besoin de faire des associations dans les luttes, de lutte pour quoi ? Pour défendre la vie, défendre le vivant, défendre la démocratie, etc. Mais aussi, on a besoin, pas que de défendre, on a besoin de recréer, réouvrir des horizons. Besoin d'action, aujourd'hui, je pense qu'il y a un besoin de local, de se retrouver, d'écouter, donc de créer des groupes locaux. Donc c'est vraiment une invitation à créer des groupes d'entraide locaux. On l'a vu avec l'incroyable besoin pendant la pandémie et le confinement, des chaînes d'approvisionnement courtes, des producteurs locaux, et puis prendre soin de son voisin, etc. Mais aussi, par rapport psychologiquement, comment ne pas s'effondrer avant l'effondrement, pour prendre une expression, recréer du lien, c'est-à-dire recréer une capacité d'écoute. Toutes ces catastrophes créent des affects absolument énormes. Et savoir les exprimer, les écouter, recréer du lien justement dans des groupes locaux, ça fait du bien. Mais aussi, on peut, dans les groupes locaux, passer à l'action, à, par exemple, la sécurité alimentaire, comment on s'organise dans un quartier, comment on gère les risques, comment on s'entraîne à des catastrophes, comment il y a plein de choses à faire, en fait. Ça, la puissance d'action passe par le local, mais aussi par les grosses échelles. Chacun peut aussi lutter, faire du lobby, voter, enfin aller dans les institutions, recréer des institutions qui produisent du bien commun, etc., etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce dont on a besoin, c'est pas forcément d'espoir au début, on a besoin de récits qui ouvrent des horizons, mais surtout de courage pour passer à l'action. Et une fois on voit qu'on passe à l'action, ça a dû vous arriver, qu'on voit l'action collective, le frisson d'une action de désobéissance civile, d'une manif, d'une loi qui passe, d'une victoire de conquête sociale, et là, l'espoir revient. C'est Camus qui disait ça. Je crois que c'est dans La Peste, justement, qu'il faut relire. L'espoir revient quand le collectif revient. Et ça, c'est le chantier qu'on ouvre aujourd'hui, qu'on souhaite vraiment avec beaucoup d'auteurs, de l'action, quelle action collective. Voilà, maintenant qu'on a posé ce jalon des causes, donc on a un peu éclairci ça, et encore que. Voilà, toujours dans cette démarche collapsologique de donner les outils conceptuels pour essayer de se débrouiller dans ce monde de tempête. Moi, je voulais juste souligner aussi, vous avez dit, c'est publié au Lien qui Libère, c'est publié aussi en collaboration avec le magazine Imagine Demain le Monde. Ça me touche de le dire ici parce que ça fait 30 ans ou plus qu'ils sont là. C'est un magazine d'écologie belge qui est, depuis le début, ancré dans la relation Nord-Sud et qui fait vraiment un travail politique, je trouve, remarquable.
En effet, il faut les citer.
Oui. Et qui est belge, mais diffusé aussi en France, dans les librairies.
Et accessible sur Internet pour la francophonie.
Voilà.
Donc on les salue aussi au passage, absolument. Et puis on peut signaler aussi votre publication Yggdrasil. Enfin bon, après on mettra tout ça sur la page Internet de l'émission, qui est donc une série de magazines qui fait le point sur tous ces enjeux.
Un trimestriel sur la fin du monde.
Non, oui, mais sur la fin du monde.
Et
avec
la
une
renaissance,
vision,
le renouveau, voilà, évidemment.
Une vision positive d'action, parce que le monde ne s'arrête pas.
Qui donne envie d'agir, ouais.
Tous les matins, le soleil se lève. Faut scruter l'horizon. Voilà, moi, c'est mon mantra. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à continuer à nous écrire, à partager vos réactions sur les réseaux sociaux et à partager nos podcasts. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.